Ruelle FM.
Eh ben bonjour.
Eh ben oui, en effet, bonjour.
Et salut Mathéo et Aurélie, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vus.
Ouais, ça doit faire 6 mois,
très long, ouais.
Un peu plus de 6 mois.
Mais c'est, oui, un peu plus de 6 mois, là, vous avez eu de grandes vacances bien méritées, j'espère reposantes, mais à ce que j'ai compris, ça ne l'était pas complètement. Bah, du coup, qu'est-ce que vous êtes devenu depuis tout ce temps-là?
Eh ben, bon, je vais laisser Aurélie commencer. Hein.
Ah, bah oui. Bah écoute, on a pris des vacances sans cours déjà, pour commencer. Je pense que ça faisait du bien, parce que la fin de l'L3 était un peu rude.
Un peu.
Et puis après, bah, on a fait tout ce que fait tout bon archéologue en vacances. On est allé fouiller.
Ah, génial.
Donc moi, je suis repartie sur mon chantier à côté d'Amiens, où je vais depuis... C'était ma 4e année. Et du coup, là-bas, j'ai pris un peu en grade cet été. Je suis devenue responsable de secteur. Donc on a le responsable d'opération qui va gérer en fait toute l'opération, que ce soit des débuts des démarches administratives jusqu'à la publication du rapport. Et du coup, il est aidé après sur le terrain par des responsables de secteur qui en fait gèrent une zone de fouille et une équipe. Donc cette année, on était deux. Moi, j'étais en formation de responsable de secteur. Donc pendant un mois, on a chapeauté une équipe de entre 6 et 10 fouilleurs. Ça a divagué un peu sur un secteur où en fait, on a fouillé des... On était sur la base d'une motte castrale. Et du coup, on a fouillé des plein de couches de succession de zones de travaux, en fait. Donc, on avait des zones de taille de pierre pour le château. On avait des zones de gâchage de mortier, donc préparation de mortier, pour, toujours pour le château. Et c'était un peu rude parce que c'est toujours la même chose sur des micro-couches. Donc, il fallait essayer de motiver un peu les troupes. Mais là, pour l'année d'après, on arrive sur des structures en creux avec des bâtiments qui sont un peu plus intéressantes. Mais non, c'était très formateur et c'était très cool comme expérience, comme toujours, parce que bah, la fouille, c'est sympa. Et quand on a une bonne équipe et qu'on est bien encadré, c'est toujours très sympathique. Et en suivant de ça, j'ai pris même pas un jour de repos. Je suis partie sur un autre chantier à Saint-Bertrand-de-Comminges. C'est à une heure de Toulouse, à peu près. Et donc, c'était sur un site de la fin de l'époque antique, au Moyen-Âge et bas Moyen-Âge. Donc, il y avait la fouille d'un grand mausolée. Et moi, j'ai eu l'occasion de fouiller une sépulture de bébé dans un coffre en ardoise. Donc, c'était ma première fouille de mort, on va dire ça comme ça, c'est très glauque, qui plus est un petit bébé. C'était très, très cool comme expérience et j'ai vraiment adoré parce que je venais pour ça au départ. Et donc, j'ai appris beaucoup et c'était vraiment très sympa, surtout sur un site comme Saint-Bertrand-de-Comminges, que je pense un peu toutes les personnes qui s'intéressent à la période antique connaissent ce site. C'était très très cool. Mathéo, je te laisse raconter ta vie toi aussi.
Et bah alors moi, après le 15 mars, bah, je me suis un petit peu reposé, parce qu'en effet, comme dit Aurélie, c'était un peu le rush, mais bon, ça allait. Après, eh bien, moi, j'ai fait quelque chose de très glamour, j'ai travaillé à Leclerc, voilà. tout mai, j'ai vendu des fleurs et du terreau, et bah, c'était super intéressant, je racontais comment planter un olivier à des gens alors que j'en avais aucune idée, donc voilà, le commerce est en moi.
Est-ce que t'as fait des fouilles à Leclerc au rayon jardinerie?
J'ai pas fait
de
fouilles à Leclerc.
T'as creusé pour trouver des trucs.
Mais j'étais dans mon élément, puisque je vendais du terreau, donc voilà, j'avais un peu de terre avec moi, c'était, ça me le rappelait mon confort, c'était sympa. Après, bah, j'ai eu une proposition. J'ai fouillé deux semaines vers Limoges, un site qui s'appelle le Pinceau. C'est un site néolithique, même néolithique moyen. Et en fait, c'est une succession de fosses où dedans il y avait des menhirs. Et certains ont été fracturés, puis mis en scène avec des petites palissades de chaque côté. Et le plus gros de ceux-là, en fait, a été déplacé sur la berge du site, on va dire. Bon, évidemment, comment dire, c'est parce qu'on a creusé, du coup, on sait que c'est la berge du site, mais on ne sait pas vraiment comment dire, à quelle hauteur étaient les choses. Mais du moins, on a la fosse de calage qui est restituée. En fait, un menhir, on va le caler avec de l'argile et des bonnes pavasses, quoi, pour essayer de bien bah, le stabiliser et puis le mettre droit. Et en fait, de chaque côté, on avait quatre trous, on va dire d'à peu près 80 cm de diamètre. Et en fait, ça s'apparente davantage à des chèvres de levage. Alors, c'est un peu rigolo comme nom, mais en fait, c'est juste des poteaux. Et puis, bah, on met une corde autour du menhir et on tire pour le stabiliser. Le souci, c'est que d'habitude, dans ce genre de fouille, comment dire, on retrouve en coupe, donc quand on regarde, on voit en fait normalement des espèces de petites stries, et bah, c'est le reste du bois. Le souci, c'est que là, il n'y en a pas. Donc on pourrait davantage penser à des totems ou des poteaux du moins qui ont été retirés. Donc c'est ça qui était vachement intéressant, de caractériser un petit peu le côté cultuel de cet aménagement. Voilà, donc très chouette. Après, et ben, j'ai retravaillé à Leclerc, parce que j'adore Leclerc. En fait, ils m'ont proposé de me garder. Donc, par contre, là, j'étais caissier. Alors ça, c'était très drôle. J'ai eu des très bons moments comme des moins bons moments. Mais la majeure partie du temps, c'était très cool. Et puis, j'étais aussi content de pouvoir parler un peu d'archéologie avec des gens qui ne s'y connaissaient pas trop non plus. Et bah, c'était assez rigolo. Ça m'a permis un peu de faire de la médiation entre deux billets de 10 euros, quoi. Donc, voilà.
Entre le régiment de bananes et le sac de patates, voilà. Tu plaçais des références archéologiques.
C'est ça. Oh, dis donc, et bah, votre t-shirt, mais il me fait penser à un site archéologique. Et puis, voilà. Et puis finalement, bon, de ci, de là, on parle d'archéologie.
T'es pas du néolithique, vous ?
Mais dis donc, mais non, mais enfin, voilà. Du coup, c'était plutôt sympa. Et ça m'a permis de me faire des sous. Parce que, bah, il faut fouiller, mais les fouilles. C'est bénévole, hein, donc voilà, c'est cool, mais 5 minutes. Et après, eh ben, j'ai eu une semaine de vacances. Et après, je suis parti retourner à Alésia, finalement, parce que l'année dernière, j'ai pu faire que 2 semaines à cause de la rentrée. Et cette année, vu qu'on est en master, je me suis dit, bon, finalement, je peux bien faire le mois entier. Et donc, j'ai fait le mois entier, j'ai loupé une semaine de cours. Oh là là. Mais c'était vraiment très chouette. Le but, c'était de caractériser la place publique d'Alésia. En fait, cette agglomération-là, elle a été bah, évidemment attaquée par César. On connaît tous l'histoire, hein, de la guerre des Gaules, et donc Versailles Tourix a perdu. En fait, pendant 25-30 ans, le site a un petit peu été, on va dire, oublié. Et quand il a été réoccupé, bah, il a été occupé de façon romaine. Donc, on a mis un forum, on a mis une basilique, on a mis des temples, on a mis un théâtre. Et donc, en fait, on connaît bien l'architecture de cette place publique. Le souci, c'est qu'en fait, il ferme de 3 côtés, mais le côté donc, est, bah, ferme pas. Donc, un peu bizarre. On a fait un sondage et on pensait avoir trouvé un bâtiment qui fermait. Pas du tout. C'était des fouilles modernes. Donc, fin du 19e, début du 20e. Donc, on était bien déçus. Mais ça nous a permis de trouver une voie qui en fait reliait le théâtre donc en contrebas et puis d'autres structures et en fait passait dessous ces structures là et finalement bah, en datant cette voie avec du matériel archéologique hein, donc ça peut être de la céramique, des monnaies, des choses comme ça va nous permettre de comprendre un petit peu comment le site a été agencé. Voilà, donc on sait que cette voie est par exemple antérieure à la basilique, antérieure au théâtre, donc si elle datait du 2e siècle, et ben on sait que le théâtre et la basilique ont été construites après le 2e siècle, donc très intéressant. Voilà, j'ai très très content.
Mais c'était des vacances bien remplies tout ça.
Bah pour nous deux, oui.
Entre
je crois qu'on
fouille et travail saisonnier.
Entre fouille et pas fouille.
Surtout
voilà.
Qu'elles ont commencé le 15 mars, quoi.
Oui, c'est vrai.
Voilà, donc bon, après le 15 mars, c'est vrai qu'on était assez, assez tranquille, on va dire.
Oui, on a eu 2 mois de vacances avant de recommencer se bouger un peu. Mais du coup, là, pour continuer, on va vous faire en gros un petit récap de quelques sites qu'on a trouvés sur le site de l'INRAP, qui sont des fouilles de cet été, pour faire un peu l'actualité archéo de cet été. Donc là, c'est vraiment juste quelques fouilles qu'on a sélectionnées comme ça. Mais si ça vous intéresse, sur le site de l'INRAP, il y a toutes les découvertes qu'ils font mois par mois. À chaque fois qu'ils ont quelque chose d'intéressant, ils publient dessus. Donc je vais vous laisser, Mathéo, présenter les premières fouilles.
Oui, voilà. Alors moi, donc, parce que je suis INRAP sur Insta, et du coup, c'est vrai que bah, de temps en temps, on a des petites affiches, des petits posts, et puis bon, on regarde, et finalement, il y a des choses qui sont un peu plus intéressantes que d'autres. Je vais juste vous parler de deux petites choses. Il y a l'école des mines à Paris. Alors, c'est une école d'ingénieurs, on va grossir le trait comme ça. En fait, ils ont fait un sondage et ils se sont retrouvés avec une occupation du Haut Empire, donc 1er, 2e siècle après. Et donc, eh ben, ça marque comment donc Paris, donc Lutèce, était occupée à ces époques-là. On a beaucoup de mal parce que, ben, comme dans toutes les agglomérations d'aujourd'hui, fouiller en ville, c'est pas forcément facile. Et là, donc, l'INRAP qui, elle, opère en ville, a permis d'ouvrir une petite fenêtre, donc de voir ce qui se passait au vieux Paris, au très très vieux Paris. Même et finalement eh bien on a tout ce qu'on retrouve dans les agglomérations ailleurs des niveaux de sol, des niveaux de récupération, des aires de circulation et puis bah, des témoins de la vie quotidienne hein. On va avoir de la céramique de table, je crois même qu'il y a un buste en céramique qui a été retrouvé, donc des choses pas particulièrement spectaculaires mais intéressantes dans l'histoire de Paris, on va dire. Et l'autre, c'est davantage sur le site de l'INRAP. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse un petit peu l'archéologie de près ou de loin. C'est, l'INRAP, c'est toujours une très bonne source d'informations. Et il n'y a pas longtemps, ils ont remis en contexte, en médias, un site qui s'appelle Olna, donc à Clermont-Ferrand. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une médiation qui est très très bien faite, qui part de plusieurs photos interactives avec le site. En fait, le site est emblématique de l'archéologie d'aujourd'hui, principalement pour ses structures, ses puits. En fait, le puits en archéologie, c'est super intéressant parce que c'est une structure en creux, donc on a la chronologie, et puis en plus, souvent, c'est des structures qui sont humides, et donc l'eau et puis l'archéologie, on kiffe, hein, parce que ça garde les vestiges, donc y a pas mal de choses qui ont été retrouvées, et ce site date d'une époque grossièrement gauloise, hein, donc on va dire deuxième siècle avant, deuxième siècle après, donc très intéressant pour voir un exemple de médiation en archéologie qui se fait quelques années après, puisque ce site a été fouillé en 2019-2020. Donc voilà. Mais je vous laisse Aurélie, qui a un autre site intéressant aussi.
Donc on va rester sur du côté de Clermont-Ferrand. Une fouille qui a eu lieu sur la place Hippolyte entre mai et juin de cette année. Comme c'est moi, c'est un site funéraire. Je préviens d'avance encore. Donc c'est à côté de l'église Saint-Genès. Donc... au travers de cette fouille, les archéologues de l'INRAP ont pu, entre autres, retrouver 50 sépultures ad sanctos, donc ça veut dire au plus près du saint, donc littéralement c'est au plus près du saint, donc c'est à l'intérieur des édifices religieux. Donc on a des pratiques chrétiennes classiques, défunt sur le dos, tête à l'ouest. Là on a une bonne représentation des deux sexes, que ce soit des femmes ou des hommes. Par contre on a très peu d'enfants à l'intérieur de l'édifice, ce qui n'est pas étonnant non plus parce que souvent les enfants meurent très jeunes. Ils n'ont pas forcément le temps d'être baptisés. Donc souvent, on les retrouve à l'extérieur des édifices religieux parce qu'ils ne peuvent pas être enterrés dans l'édifice religieux s'ils ne sont pas baptisés. Donc on retrouve un peu tous les panels de tombes. Donc on a des tombes à cercueil, on a des tombes en sarcophage ou en coffrage de dalles. On sait que pas mal de squelettes portaient un linceul au moment où ils ont été déposés. Donc on retrouve des épingles, des résidus de tissu. Et on voit aussi au niveau du squelette, au cours de son dépôt, en fait, on va avoir des contraintes. Ça se voit par exemple sur le bras va avoir une position spécifique et en fait qui ne va pas être résiduelle de la décomposition. Donc on peut supposer qu'il y a un linceul à partir de ces éléments-là. On retrouve quelques objets religieux et sur le site, il y a une photo notamment d'un pendentif cruciforme qui est très bien conservé et qui est assez beau, je trouve, même si la relation jolie et importante n'est pas forcément importante. Et on a aussi, du coup, la présence d'un ossuaire entre deux murs. Donc, en fait, on a beaucoup d'os qui sont déposés à cet endroit-là. C'est une sélection d'eau, il y a beaucoup d'os longs et de squelettes. Et donc, on ne sait pas pourquoi, mais ça résulte d'un seul événement. Tous les os ont été déposés en même temps. Et donc, ce qui est très intéressant sur cette fouille-là aussi, pour l'époque moderne, on a retrouvé un squelette de femme avec la trace de deux prothèses au niveau de ses incisives centrales supérieures. Donc en fait on pense qu'elle a eu une fracture au niveau des incisives, du coup on lui a placé des prothèses qui sont en fait des prothèses insérées directement dans ce qui reste de la couronne de la dent avec une petite tige en métal. Et je vais vous laisser Mathéo faire rapidement le fun fact.
Alors il y a ça mais aussi finalement avant de faire le fun fact je trouvais intéressant aussi peut-être de parler de... on est revenu à la fac mais pour faire quoi finalement? Aurélie, qu'est-ce que tu fais à la fac?
Moi j'ai migré, je ne suis plus à UBM, je suis maintenant à l'université de Bordeaux qui propose aussi un master en archéologie mais du coup qui est beaucoup plus centré sur... On a trois parcours, on a un parcours préhistoire archéozoologie, un parcours d'anthropologie biologique et moi je suis du coup en archéothanatologie. Donc ça va être tout ce qui résulte des pratiques funéraires, du mort, mais aussi des structures et du contexte archéologique qui est autour.
Voilà, et moi je suis restée à Bordeaux-Montaigne, parce que finalement j'aime bien, je vais travailler sur l'époque antique, donc deuxième siècle avant, deuxième siècle après, et je vais tenter de faire une synthèse de toutes les agglomérations de l'Aquitaine césarienne, donc on va dire Sud-Garonne, Sud-Adour, donc on compte pas Bordeaux ni la Gironde. En fait c'est surtout pour comprendre un petit peu comment cette région-là est peuplée, à la fois donc à l'époque romaine et puis faire une méthode régressive de savoir si ces agglomérations romaines étaient gauloises avant ou alors s'il y avait des agglomérations gauloises qui ont comment dire, qui ont migré en romaine, ou d'autres qui n'ont pas perduré et donc qui sont perdus, ou d'autres romaines qui sont nées comme ça, ex nihilo, sans de continuité avec une autre. Donc très intéressant, ça va me demander de beaucoup lire, mais comme tous les mémoires qu'on fait à Bordeaux-Montaigne, voilà. Mais je crois que c'est à peu près tout. Et le fun fact d'aujourd'hui, parce qu'évidemment on reprend les fun facts.
On ne change pas les bonnes habitudes.
On ne change pas les bonnes habitudes. Donc je ne sais pas si vous connaissez le fleuve qui s'appelle le Pactole. Alors le Pactole, donc, c'est un fleuve qui est en Turquie actuelle, la Turquie qui au 7e, 6e siècle avant s'appelait la Lydie. Et en fait, c'est ici qu'on retrouve, en Lydie, les premiers témoins de monnayage. Hein, une monnaie, ça va être quelque chose de à la fois symbolique, mais à la fois quelque chose qui va être utilisé et qui va être frappé par un État ou une autonomie. Donc c'est quelque chose qui est relativement important dès ses débuts. Et en fait, le pactole, ben, on a déjà cette... je trouve ça intéressant, là... Comment dire, le lien entre archéologie, mythe et puis la vie quotidienne, parce que bon, quand on parle du pactole, bah, c'est qu'on gagne une grosse somme. Mais en fait, ce fleuve, le pactole, il a été notamment utilisé dans la légende du roi Midas, parce que quand le roi Midas s'échappe, se promène, il trouve près du pactole Dionysos qui lui dit bah, écoute, merci de m'avoir trouvé, je vais te donner un don. Et le roi Midas dit tout ce que je touche va être en or. Bon, évidemment, il n'est pas très intelligent et puis pas très réfléchi. Et puis, il voit en fait que plus il utilise ce don et plus il ne peut pas l'utiliser. Hein. Il veut boire, tout ça s'en semble en or. Il veut manger, c'est pareil. Donc, il demande à Dionysos, s'il te plaît, enlève-moi ce don. Et il lui dit, plonge-toi dans le pactole. Donc, c'est comme ça que le pactole, finalement, récupère tout cet or. Et on a aussi, en Lydie et au niveau du pactole, les premières traces d'un roi qui s'appelle le roi Crésus. Donc, riche comme Crésus, c'est pareil, l'or, toutes ces richesses-là. Et donc, je crois que ce fun fact était relativement intéressant pour parler un petit peu d'archéologie et à la fois de ce qu'on avait aujourd'hui. Et ce Truel FM est terminé pour moi, du moins, mais je crois qu'Aurélie a quelque chose à vous dire encore.
Moi, je vais juste vous parler de deux petites choses qui se passent cette semaine en archéo sur Bordeaux. Donc, jeudi, on a une conférence à Ausonius. C'est en fait une étude sur des notes de paléographes pour comprendre des manuscrits carolingiens. Donc, c'est présenté par Camille Guézarguet, qui est une maîtresse de conférence de Montpellier. Et le musée d'Aquitaine propose le 4 octobre, le 8 octobre, la visite commentée de son exposition sur l'art préhistorique. Je crois que tu l'as faite, Mathéo, qui a été très intéressante.
Je l'ai faite, elle était très intéressante. À la fois, si vous voulez y aller et que ce soit commenté, c'est encore mieux parce que vous avez des informations auxquelles vous ne pourrez pas avoir accès tout seul. Donc franchement, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment très intéressant. Et la conférence aux ONU jeudi, c'est en ACH 025, bâtiment de l'archéologie qui est à côté du Sphinx.
Et le musée d'Aquitaine, je finis après ça, propose aussi le 5, donc c'est jeudi, je crois. Une visite de la basilique Saint-Michel à Bordeaux.
Et voilà. Et bon, voilà. Mais merci beaucoup pour nous avoir accueillis pour ce tout premier Truel FM session 2023. On est très contents.
Et merci à tous les deux. Ça me fait drôlement plaisir de vous retrouver. Et donc voilà, Truel FM tous les lundis vers 12h45 par là dans Café Campus. Merci à tous les deux.
Merci.